pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Bienvenue au village de l'eau.
Pendant ce village de l'eau, nous allons essayer de créer des solidarités. Il est important plus que jamais de nous mettre en réseau, de nous parler, de créer des liens entre nous. Et les conférences, tables rondes, formations vont être l'occasion de partager nos expériences, de nous mettre en lien et d'essayer de créer un réseau fort pour lutter contre l'accaparement de l'eau. Nova Saran, et soyons unis.
Nova Saran !
Toutes les bassines, faut savoir, en France sont liées à l'agro-industrie qui vraiment spécule sur notre alimentation, sur le revenu des paysans. Et je le redis, notre adversaire, nos ennemis, ce ne sont pas les agriculteurs, mais ce sont bien l'agro-industrie.
Le collectif Bassines Non Merci est très pédagogue et sait communiquer et informer. Les personnes qui font des manifs anti-bassines savent pourquoi elles les font. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off, pendant que les champs brûlent. C'est le titre de ce nouvel épisode de notre série Village de l'eau, aujourd'hui sur la manifaction du vendredi 19 juillet 2024, dans la campagne de la Vienne, pas loin de Poitiers et de Migné-Auxances. Action joyeuse, pacifique et en fanfare, avec, pour commencer, jeu de piste routier avec les gendarmes, puis pique-nique en musique, suivi d'une marche familiale et champêtre. Balade interrompue quand la gendarmerie a mis le feu au champ en tirant des grenades sur de la paille non récoltée et asséchée par la canicule.
Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la plaine endure, que jamais rien ne m'atteigne.
Vous raconter cette belle journée de juillet, c'est aussi essayer de rendre compte de la compétence, du sérieux, de la prévenance, de la bienveillance, de l'intelligence de ces gens qui organisent ces manifs anti-bassines. Bassines Non Merci, Soulèvement de la Terre et bien d'autres collectifs. L'organisation, déjà excellente au début de BNM, se peaufine de manif en manif. Ces gens réalisent des exploits d'organisation, de logistique, de stratégie pacifique. Et ce qui est remarquable, on vous l'a déjà dit, c'est le soin, le care, l'attention portée par les organisatrices aux gens qui viennent manifester. Je vous ai déjà par exemple raconté comment en pleine baston de Sainte-Soline 2023, des gens masqués avaient distribué le goûter sous forme de délicieux gâteaux à l'orange. On n'est jamais seul dans une manif anti-bassine, parce qu'on y est ensemble.
Seul, je ne suis qu'une goutte. Avec vous, je me sens appartenir à un torrent.
Cette cohésion des manifs anti-bassines, on la doit par exemple à la formation préalable à un langage de gestes pour se déplacer ensemble en cortège. La cohésion, on la doit aussi aux super fanfares qui soutiennent et soudent les gens qui marchent ensemble. La cohésion, on la doit encore à ces personnes masquées qui, par groupe mobile de 3-4, portent haut-parleurs et mégaphones et de façon très calme, très intelligible, donnent conseils et informations. Alors c'est pas de l'encadrement des manifestants, mais de l'accompagnement. Toujours posé, bienveillant, parfois avec humour, mais toujours carré et rassurant. Ces petits groupes de sonos qui déambulent partout dans le cortège pour passer infos et consignes sont un peu les neurones du grand corps de la manif. Spéciale dédicace aux géniales personnes qui assurent au mégaphone, comme par exemple ce vendredi 19 juillet, quand près de 6500 manifestantes et manifestants ont tranquillement échappé à l'incendie que la gendarmerie avait déclenché dans un champ.
On ne stagne pas les gens de derrière,
on avance, le feu arrive derrière, on laisse pas les derniers dans la panique, on avance, on presse le pas tranquille, tranquille, on est encore tous et tous ensemble. Tranquillement.
Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la plaine endure, que jamais rien ne m'atteigne.
Pour vous raconter cette manifestation du 19 juillet, retour au village de l'eau établi à Saint-Martin-les-Mels. Alors je vous ai déjà raconté que j'étais pas chaud pour aller en manif, enfin que j'avais surtout pas envie de me faire Sainte-Soline, et je m'en suis ouvert à Julien Leguet de Bassines Non Merci, qui a rappelé que la manif n'est pas un concours de bravoure, qu'il est légitime d'exprimer qu'on craint la répression policière, et que de toute façon, il y a aussi besoin de gens partout sur la base du village de l'eau, en cuisine et ailleurs. Détendu par ces réponses, quand j'ai vu que mes copaines et des gens que j'aime allaient à la manif, bah, je me suis finalement dit que j'y allais aussi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un hélicoptère de la gendarmerie a survolé assez bas le village de l'eau qui l'a balayé de son gros projecteur. Alors c'est pas pour faire le malin, hein, mais déjà claqué par trois intenses et très longues journées de village de l'eau, votre serviteur s'est laissé bercer par le monotone ronronnement de l'hélico. Bruit beaucoup moins perturbant que ce mec bourré qui n'arrivait pas à retrouver sa tente. Une veille de manif. Vendredi matin, il va encore faire beau et très chaud. Canicule. Manifestantes et manifestants vont chercher les milliers de sandwichs du pique-nique proposés par les extraordinaires collectifs cuisine du village de l'eau, parce que Bassine, non merci, on vous le répète, nourrit ces manifestantes et manifestants. L'objectif de la manif campagnarde du jour est secret. On ne l'apprendra qu'en fin de journée, il s'agissait de poser un panneau devant une usine Seriance qui fabrique des semences pour Terena, multinationale de l'agro-industrie directement reliée aux méga-bassines. Mais ça, on ne le sait pas encore au moment où on prend la route pour une première étape vers une destination inconnue donc. Plusieurs points de rendez-vous ont été indiqués par l'Orga, dont un dans la petite ville de Saint-Mexant-l'École, à 25 km de Mel, en voiture. Environ une demi-heure plus tard, vous voilà à Saint-Mexant-l'École, où d'autres personnes attendent la suite des instructions. Ça ressemble un peu à un jeu de piste. Je cherche une rêve partie secrète, à part que c'est pas pour une free party, mais pour une manif, on ne sait pas encore où, les gendarmes non plus, mais ils sont là, eux aussi, par camions entiers. Et il y a aussi trois personnes habillées tout en blanc qui observent, c'est la Ligue des droits de l'homme. Ils n'ont droit de parler à personne pour ne pas fausser leur observation. Et là, on rencontre deux dangereux éco-terroristes, Evelyne et Bruno. À la terrasse du Pain d'Enfer, on est à Saint-Mexant-l'École, charmante ville, où en terrasse, on a le plaisir de rencontrer Bruno. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Bonjour Evelyne.
Bonjour.
Rien ne va, pompe à vélo, anti-vol, casque, ça c'est très douteux. Dans ton sac, j'ai aperçu une baguette de pain, ça
oui, pourrait... Oui, voilà. Oui, mais c'est une arme. Et... J'ai aussi une bombe de ventoline parce que je suis asthmatique.
Ah bah là, on s'approche de la guerre chimique là.
C'est une bombe. Et une bombe anti-crevaison, ça commence par bombe et crevaison, mort.
Comment est-ce que vous vivez ces contrôles policiers là autour du village de l'eau ?
J'ai été contrôlé 4 fois en 400 mètres. L'année dernière, on m'avait pris un bâton, mon bâton de randonnée avec lequel j'avais fait peut-être, 1000 km avec, sans que jamais personne s'en inquiète. Et on me l'a pris, soi-disant que ce serait une arme, comme si je pouvais, à plus de 70 ans, aller attaquer des gens suréquipés, surprotégés, casqués, avec bouclier, avec un taser, avec une arme à feu. Ben, je leur ai donné, je leur ai laissé, mais je me dis quand même, il y a du parti pris, on veut nous diaboliser, alors que nous sommes des simples gens qui viennent protester contre l'usage abusif des pesticides qu'on retrouve dans toutes les eaux du monde, toutes les eaux de France, avec aussi toutes les conséquences sanitaires qu'on connaît, qu'on connaîtra de plus en plus, et qui malheureusement, quand on voudra arrêter tout cela, ça sera trop tard, les sols seront gorgés de pesticides pour des décennies. Et c'est pour ça que je suis là. Je ne suis pas d'accord qu'on continue à polluer la terre au profit de certains et pas tous les agriculteurs. Tous n'ont pas accès à l'eau. Quand on sait que du côté, par exemple, de Niort, il y a un gars qui a 1400 hectares de terre, alors que d'autres galèrent avec 40 hectares, il y a vraiment un problème. Il y en a qui contournent la loi, qui contournent la affaire à leur profit et non au profit de tout le monde.
Vous faites tout ça en vélo ?
Oui, choix bas carbone. On vient de faire le tour de la Bretagne en vélo, 1080 km en vélo. C'est aussi de très belles vacances que je conseille à tout le monde. La Bretagne, c'est très beau, le vélo, c'est bien, et ça n'apporte pas de carbone.
vous êtes venu au village de l'eau en vélo?
Non. Là, on est venu en voiture, on a laissé la voiture ici pour accompagner la marche aujourd'hui. À vélo.
Et ces personnes qui vous ont contrôlé, là, donc habillées en bleu marine, tu as fait un petit peu ce petit laïus là, sur les pesticides et tout ça, sur les enfants
Je leur ai expliqué que j'étais là, qu'eux aussi avaient des enfants ou des petits-enfants et qu'eux aussi buvaient de l'eau. Et si ça ne les gênait pas de savoir que l'eau est saturée de pesticides, insecticides, fongicides, qu'on peut retrouver dans tous les placentas des femmes, dans nos cheveux, dans nos urines, ça pose problème. Et que s'ils n'étaient pas en tenue, la logique c'est qu'ils soient à côté de nous, avec nous, pour protester contre l'usage abusif de ce genre de produits. Et bien sinon, je veux dire que bravo pour ceux qui ont organisé le village de l'eau. C'est remarquable tout ce que nous avons vu, des films. Ce sont des gens paisibles, pacifiques, intéressants, qui ont fait des choix de vie, des choix responsables, qui respectent les autres et le bien public. Et ça, moi, je leur dis merci et bravo à l'organisation. C'est remarquable ce qui a été fait et inadmissible qu'on vous diabolise.
Oui, les films que nous avons vus sont malheureusement tristement intéressants.
Alors, bonne manif à vous et bonne pédalade.
Merci, bonne journée.
L'info est tombée sur Signal. Rendez-vous à Migné-Auxances dans la Vienne, à 60 km de là. J'ai la chance d'être dans un super équipage, super conducteur et super copilote au téléphone. Merci aussi à l'infotrafic de l'Orga et merci la méga radio du village de l'eau. Bref, après avoir fait la route et garé les voitures, on est des milliers à arriver avec nos pique-niques dans le très beau parc du Pré-Sec de Migné-Auxances.
Bon appétit et bravo d'être arrivé ici. On est déjà des milliers. Et c'était déjà quand même la sacrée mission de sortir du camp ce matin. Donc vraiment bravo à tout le monde. Du coup, ouais, bon app, rafraîchissez-vous bien et on part tout à l'heure faire une balade. On part faire une marche festive et joyeuse vers un des acteurs de l'agro-industrie. C'est les gens qui commandent les projets de bassines. Le but de tout ça, c'est d'arracher un moratoire sur les bassines. On veut arrêter ces projets de bassines, on veut arrêter ces chantiers. On est là pour montrer ça. Si vous n'avez pas encore le petit papier de la légale, il faut aller voir les gens qui ont les brassards jaunes. On sait que tout le monde a un peu bu son eau et tout ça. On est en train d'essayer de débrouiller pour avoir plus d'eau. On a le droit de faire pipi dans les bois ici. Et on est en train de débrouiller des toilettes sèches, histoire que les gens qui ont leurs règles ou que c'est vraiment méga urgent puissent aller faire ça.
Pique-nique en fanfare dans le parc, rencontre avec Pascal et Henri, encore des écoterroristes armés jusqu'aux dents, d'une tarte à l'abricot et qui partagent gentiment leur déjeuner avec moi. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Merci pour cette délicieuse tarte à l'abricot, c'est du maison hein.
Oui, tout à fait.
Bonjour Henri.
Bonjour.
Tu es venu avec Pascal?
Exactement. Bon, on a notre fils qui est là aussi, mais lui est déjà là depuis hier. Il était déjà au village de l'eau.
Ah, vous avez engendré un éco-terroriste.
C'est ça. Les chiens font pas des chats, comme on dit.
Donc là, on vit un moment de violence extrême quand même sur cette magnifique prairie. Il y a une grosse fanfare qui joue, des milliers de personnes en train de pique-niquer paisiblement. Mais en fait, c'est de la violence. Hein.
Oui, tout à fait. Ils chantent, ils dansent. C'est très violent.
Ça fait peur d'ailleurs de voir tous ces éco-terroristes autour de nous, là, c'est effrayant.
Ils ont l'air heureux en plus, donc c'est très inquiétant. Vous venez d'où, Pascal et Henri?
On vient de La Rochénard dans le 79.
Ah mais La Rochénard, il y a eu une manif bassine en mars 2022, là-bas.
Exactement. Le printemps maraîchin, c'est ça.
Vous y étiez?
On y était.
Quoi, allez, j'ai mangé une délicieuse tarte à l'abricot d'éco-terroristes.
C'est ça. Voilà, t'as pris un gros risque. Mais ouais, dans La Rochénard, à l'époque, on était élu au conseil municipal et de La Rochénard. Pas seulement depuis la manifestation, mais dans les mois qui ont suivi, on a quitté le conseil municipal.
À cause d'une histoire de bassine?
Pas seulement, mais disons que...
Divergence d'opinion.
Oh, comme c'est diplomate.
Je suis moins diplomate, je dirais que après la manif, on a subi quelques petites pressions d'habitants, et etc. Ce qui a fait qu'une partie du conseil municipal a un peu retourné sa veste en disant qu'ils avaient été manipulés par BNM et tout.
BNM, bassine non merci.
Et nous, comme on n'est pas d'accord avec ça, qu'on était en plus dans le conseil, qu'on a vu comment a été prise la décision d'accueillir le printemps maraîchin, bah, on s'est dit qu'on préférait rester entre gens de conviction qu'entre gens qui retournent leur veste.
Quand tu dis quelques petites pressions...
Oh, rien de grave, quelques habitants mécontents qui sont venus nous le faire savoir lors d'un conseil municipal un peu houleux. Et puis bon, après, depuis, effectivement, certains d'entre nous ont une étiquette, on va dire, dans le village et sont pas forcément appréciés par certains, mais bon...
Tu cherches aussi, hein, t'as un t-shirt de la Confédération Paysanne aussi, avec marqué « L'eau est un commun, protégeons-la, partageons-la ».
Bah, j'ai le problème, ouais, effectivement, c'est que quand j'ai des convictions, je m'y tiens et j'en change pas toutes les semaines.
C'était facile pour vous, pour venir ici, non? Barrage non.
Rien du tout. Après, on est à moto. Mais on n'a pas vu de barrage du tout.
Tant mieux, parce que vous auriez pu vous faire piquer les fourchettes avec laquelle on a pu déguster cette tarte à l'abricot.
Une arme par destination. Ben ouais, ouais, non, mais c'est un peu ridicule parce qu'effectivement, quand on voit ce qui a été supprimé par les gendarmes, les boules de pétanque, des serpettes et compagnie, on sait très bien qu'il y a des gens dans le coin qui bricolent, qui font du bois ou des trucs comme ça, qui ont besoin de ces outils pour travailler.
Ben oui, mais il y a eu un arrêté anti-bricolage.
C'est ça, il y a un arrêté. Alors après, les arrêtés anti-casserole, anti-outils, anti... Bah bientôt, on sera obligé de sortir à poil de chez nous. Ce sera peut-être pas mal comme ça, au moins. Il n'y aura plus de lutte des classes si on est tous tout nus.
On se distinguera avec nos bracelets électroniques. Il y aura des bracelets électroniques de pauvres.
On aura des puces.
Les autorités ont saisi des tas d'objets complètement incongrus. Hein, des antivols à vélo, des pompes à vélo. Une conseillère de la ville de Mel s'est fait saisir son parapluie, me semble-t-il. Bon, des campeurs qui se sont fait prendre leurs sardines, ça on comprend, ils cherchent un peu quand même. Hein,
Bah oui, c'est ultra dangereux les sardines, surtout les sardines sauvages.
Sinon, bah voilà, éco-terroristes de luxe qui lancent des boules de pétanque, c'est quand même pas donné une boule de pétanque.
Ben moi j'hésitais à garder mon antivol avec ma moto en venant parce que je me suis dit qu'ils allaient, si je me faisais contrôler, ils allaient peut-être me l'enlever. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas été contrôlé.
Bonjour Claire.
Salut.
Sur ce pré sec, parking, fanfare, pique-nique, sieste, on est, je sais pas, des centaines, des milliers peut-être.
Ouais, ouais. On
non, en tout cas, beaucoup et de très bonne humeur. Alors, je suis pas venu vers toi et ton collègue par hasard parce que vous portez une grosse bête, 4-5 mètres de longueur, du museau jusqu'à la queue comprise.
C'est ça, tout à fait.
On dirait une salamandre.
Et noir, effectivement, c'est une salamandre.
Et toi-même, tu portes un masque. Oh, bah, on dirait bien, allez, une outarde au hasard.
Non, c'était plutôt un hibou, mais il s'est un peu transformé au fil de ma créativité.
On va dire un hibou outardien.
C'est ça.
C'est très beau les salamandres, c'était l'emblème de François Ier,
ouais.
Voilà. Tu es une royaliste égarée sur ce pré.
Non, pas du tout. Je suis une gardoise égarée sur ce pré. En fait, nous en avons fait notre animal totem pour l'association Osagué, qui est une association du Gard qui milite contre des méga-bassines en projet sur deux communes qui s'appellent Rochegude et Barjac. Du coup, c'était important pour nous d'être avec vous parce que on fait partie de Bassines Non Merci et il y en a partout en France et on est solidaires et c'est un maillage national, international et c'était normal qu'on vienne et qu'on célèbre ce village de l'eau.
Mais alors vous, mes pauvres amis, dans le sud, mais ça fait quelques années que j'entends des copaines qui passent des vacances dans le sud et qui reviennent et qui me disent que c'est dramatique. Ils voient les camions, au début ils croyaient que c'était des camions de lait. Non, c'est pas des camions de lait qui vont dans les villages pour apporter du lait, c'est des camions d'eau qui vont dans les villages pour apporter de la flotte parce qu'elle n'arrive plus au robinet chez vous.
C'est ça, tout
à fait.
Et dans
le Gard,
c'est compliqué.
Ça fait longtemps déjà, plusieurs étés, non?
Il y a des villages, oui, ça fait plusieurs étés où ils sont servis en eau par des camions citernes.
Encore nous, dans le Gard, je pense que c'est la région de Perpignan-Narbonne qui est plus touchée encore que nous. Et pour remédier à ça, en fait, ils n'ont rien trouvé de mieux que de faire un projet de canal pour amener de l'eau du Rhône jusque vers Perpignan. Donc en fait, ils ont des projets pharaoniques de fou, alors qu'il faudrait juste remettre de la vie dans le sol et arrêter de canaliser les cours d'eau. Et c'est vraiment une grosse réflexion à avoir. Et il faudrait un jour, à un moment donné, que les gouvernants comprennent qu'ils ne peuvent pas impunément diriger le pays et ordonner des travaux qui n'ont aucun sens sans prendre la mesure de ce qu'ils font. Parce qu'en fait, ils ont une vision court-termiste. Quand on touche à l'eau, on doit l'avoir dans la tête que ça va toucher des générations et des générations et des générations. Et on ne peut pas jouer à l'apprenti sorcier avec l'eau.
Et comment ils comptent remplir leur méga-bassine dans le Gard si déjà l'eau a du mal à arriver au robinet ?
Dans le Gard, ce qui se passe, je pense que tu es au courant qu'il y a des inondations dans le Gard, souvent l'hiver, avec des épisodes cévenols assez impressionnants. Ils prennent comme excuse qu'il y a des grosses précipitations hivernales et qu'ils vont se servir de ça pour pomper de l'eau et remplir des méga-bassines. Mais le problème, c'est que ces pompes, elles sont immergées dans le lit de la Cèze, en l'occurrence. C'est pas une partie de l'eau hivernale qui est dirigée vers les méga-bassines. C'est qu'en fait, elle est repompée du milieu naturel vers des méga-bassines.
Qui dit méga-bassine dit agro-industrie. Qu'est-ce qui se cultive dans le Gard ?
Des semences de tournesol, des semences pour les grands industriels de semenciers et notamment des cultures tolérantes aux herbicides.
Et donc votre asso aux aguets, elle existe depuis combien de temps ?
2 ans maintenant.
Qu'est-ce que vous faites ?
Alors on a fait des réunions publiques, on a fait des projections de films, des documentaires de off-investigation pour parler du marais Poitevin et ce qui s'est passé ici, pour expliquer la problématique de l'eau au plus grand nombre. Et après on est allé tracter partout dans les petits villages, au marché, essayer de rencontrer les élus, avec plus ou moins de répondants en face et plus ou moins de volonté de faire lutte commune. Il y a énormément de travail d'éducation populaire à faire sur le sujet.
Vous arrivez à convaincre des gens quand même ?
Oui, oui, oui. Heureusement.
Y compris des gens qui travaillent la terre, exploitants agricoles.
Oui. On a un gros soutien avec la Confédération paysanne.
Évidemment.
Et justement, sans oublier les petits agriculteurs qui ne comprennent pas en fait ce lobby, en fait, le lobby de l'eau et le fait qu'il y ait la possibilité pour certains d'avoir un accès à l'eau pléthorique, alors que d'autres essayent de justement nourrir la terre pour éviter d'avoir à utiliser trop d'eau. Surtout dans notre problématique, nous dans le sud de la France, quoi. On doit faire face à des mois entiers sans une goutte de pluie.
Donc elle vient d'où ? Enfin, il faut bien que vous buviez quand même.
Ouais, après il y a des grosses nappes phréatiques. Le problème de ces nappes phréatiques, on a eu l'exemple avec Perrier qui a eu de l'eau qui est contaminée par les nitrates. Qui dit nitrate dit azote, et qui dit azote dit engrais. On puise de l'eau dans les nappes phréatiques. Et l'eau, c'est de la même pour tout le monde, que ce soit pour Perrier ou pour d'autres. Et l'eau commence à être vraiment polluée avec des nitrates, des engrais, des pesticides. C'est un vaste débat.
J'en reviens à cette semaine qui vient de s'écouler. En fait, votre salamandre, là, magnifique, hein, noir et jaune, je l'ai vu sur le village de l'eau cette semaine. Elle était pas très loin des naturalistes des terres.
Ouais.
Voilà. Vous avez passé la semaine sur le village de l'eau.
Tout à fait. Avec un grand F comme formidable, fantastique, magnifique, et c'est superbe. Et en fait, ce que j'en parlais avec des gens de Terre de Liens, qui étaient aussi sur le village de l'eau.
Donc, Terre de Liens, c'est des gens qui font un peu la médiation pour que de jeunes exploitants puissent reprendre des exploitations.
Hein. Ils ont une coopérative d'achat de terres agricoles pour pouvoir installer des gens. Et que si, par exemple, l'activité ne marche pas ou si les gens veulent arrêter, elle puisse être transmise, cette ferme. Et comme ça, les terres agricoles, il n'y a pas de spéculation dessus. Et en fait, je parlais avec eux et je leur disais que le seul problème que je trouve à ce qui se passe ici à Mel, c'est qu'il y a une manifestation et qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui pourraient venir mais qui ne veulent pas venir parce qu'il y a cette ombre qui plane de violence. Des villages de l'eau comme ça, en fait, faudrait y en avoir partout et pas seulement quand il y a une manifestation parce que c'est vraiment une autre manière de vivre. Ça nous ouvre une porte sur une autre société.
C'est extraordinaire, hein, de village en fait, en manifestation, l'organisation de BNM, de Bassine Non Merci et des soulèvements se peaufine, c'est incroyable.
Ouais, c'est magnifique.
Je sais que le terme care et soin sont très galvaudés, on les emploie à toutes les sauces, mais là, ce sont des mots qui ont vraiment du sens sur le village de l'eau. Il y a cette culture qu'on est en train de redévelopper, de prendre soin les uns des autres.
Ouais, tout à fait, ouais. Et ça, c'est merci la lutte, quoi, parce que dans l'adversité, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on se serre les coudes. Quand on se serre les coudes, on voit à qui on tient le coude, voilà.
Okay, Je trouvais que faire une manif si loin de la base, qui plus est en utilisant des voitures, enfin tu vois, cette action d'aujourd'hui et celle demain samedi au port de la Valise à La Rochelle est assez interrogante. Et on ne peut pas non plus en vouloir à des gens d'avoir été refroidis à Sainte-Soline 2023. Quoi.
En aucun cas, en aucun cas. Et ça, ce n'est pas une critique que je fais, c'est juste. Moi, j'ai été aux résistantes l'été dernier sur le plateau du Larzac. Et en fait, c'était un peu les mêmes, la même ambiance. C'est de ça dont on a besoin, de se retrouver autour de grandes thématiques et essayer de faire société ensemble sans eux, en fait. Et c'est surtout à avoir une inclusion. Un des seuls regrets que j'ai, c'est que je ne vois pas beaucoup de personnes racisées et elles devraient être là avec nous. Il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose pour que la société prenne conscience qu'en fait, on ne peut plus aller dans leur sens à ces multinationales. En fait. Il faut qu'on trouve la bonne déviation quoi, parce qu'on va droit dans le mur à vitesse grand V. J'ai été voir un atelier hier.
Beaucoup d'ateliers formation hein, sur le village de l'eau.
Les formations, mais là, c'était plutôt une personne qui venait. Je suis désolée, je n'ai pas tout retenu. Parce que ça a été vraiment très très dense. Et en fait, il disait que les grandes multinationales, les médias font intervenir des gens qui nous mettent en position de nous dire que c'est inéluctable. Le changement climatique est inéluctable. Mais en fait, il est inéluctable si on ne fait rien.
De toute façon, il est déjà inéluctable. Mais
oui, mais avec, dans des proportions où la vie sur Terre sera plus possible. La seule issue qu'il nous donne, c'est l'issue technologique. Alors que le retour à la Terre, pour moi, c'est la seule issue qui nous permettra de vivre tous et toutes en fraternité, en sororité et bien, quoi.
Et avec les salamandres.
Avec les non-humains, tout à fait.
Bonjour, est-ce que tu veux bien lire ce qui a marqué sur ce gros panneau ?
Ouais, alors c'est un grand panneau qui fait la taille d'un grand être humain. Et dessus, il y a marqué « Avis de condamnation en application du décret numéro 1272 de la Convention nationale du 26 juillet 1793 contre les accapareurs, considérant tous les maux que les accapareurs font à la société par des spéculations meurtrières sur les besoins les plus pressants de la vie, sur la misère publique, les soulèvements de la terre, décrète la dissolution de Terena.
Bonjour William.
Bonjour.
Alors ça pique-nique, ça écoute de la musique, ça se vautre dans l'herbe, ça fait la sieste sur ce pré sec, ça par cette rivière. Tu as une écharpe, alors du bleu, du rouge et du blanc, et tu as un badge République française. Ah, c'est marqué conseiller régional dessus.
Donc je suis William, je viens de la région des Pays de la Loire, la région voisine d'ici. Je suis donc conseiller régional. Je suis là comme membre de la France Insoumise. On est là pour dire que l'eau est un patrimoine de l'humanité, qu'il a besoin d'être défendu. Et c'est le mot d'ordre et l'objet de cette manifestation. Et c'est pour ça qu'on y est. Moi, je suis à deux titres, titre citoyen et titre élu, bien évidemment, puisque les méga-bassines, ça concerne toutes les régions.
Et à la France Insoumise et précédemment le parti de gauche, etc. Enfin, je me souviens, j'ai croisé Mélenchon à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc voilà, c'est pas un truc de dernière minute pour séduire les écolos. C'est quelque chose qui est déjà ancré depuis longtemps chez les filles. Puis j'ai déjà oublié les noms que la formation a pu porter précédemment.
Alors c'est quelque chose qui est présent de longue date, évidemment, à la France Insoumise. Moi, j'ai rejoint la France Insoumise récemment, il y a moins d'un an. J'étais ancien membre de la Convention citoyenne pour le climat et c'est ça qui m'a amené à la politique, hein, le saccage complet des mesures qu'on a produites, l'intelligence collective qu'on a produite, 149 mesures de bon sens détruites. Je me suis retrouvé dans la France Insoumise parce qu'il y a cette défense-là, à la fois sur deux pieds, le pied social et le pied écologique. Et clairement, quand on parle de l'eau est un bien commun, on veut à la France Insoumise déjà depuis longue date les premiers mètres cubes d'eau gratuits pour ceux qui ont des difficultés.
Si je me souviens bien, le programme présidentiel, alors c'était plus la France Insoumise en 2012 ou en 2017, je ne sais plus, mais la moitié du programme, c'était des mesures qui concernaient l'environnement.
Effectivement, on est très nombreux écologistes au sein de la France Insoumise. Pour moi, c'est le parti de l'écologie populaire. C'est, à mon sens, important pour beaucoup de gens d'avoir aussi des relais dans le monde politique. Moi, quand je me suis engagé en politique, c'était réellement porter la parole des citoyens qui sont éclairés sur le sujet et qui veulent que ça change. Moi, on est venu me chercher pour me former. Aujourd'hui, je pense qu'au climat H24, autour de moi, tu l'as très bien rappelé, on a des gens qui dansent, qui chantent, qui célèbrent la vie au son de la fanfare. Je pense qu'on est tous inquiets de nos conditions d'existence et qu'on a besoin aujourd'hui, de se rassurer et de montrer qu'il y a du monde qui soutient ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on est très, très nombreux dans cet esprit-là. On n'est pas venu pour en découdre, on est réellement venu là pour défendre le bien commun qu'est l'eau.
Parmi tous les milliers, j'ai envie de dire, de personnes qui sont là, il y en avait très certainement un grand nombre qui étaient à Sainte-Soline 2023.
C'était pas mon cas. J'ai plein de camarades qui sont allés, qui sont revenus vraiment traumatisés. On a vu récemment dans le Puy-de-Dôme qu'il y avait aussi une manifestation et que ça s'était très bien passé du fait de la non-intervention des forces de l'ordre.
C'est marrant, quand il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de black bloc. Il y en a peut-être, mais ils ne se manifestent pas.
Exactement. Enfin, franchement, ça se passe bien parce que le mot d'ordre reste quand même... la non-violence dès le départ. Mais te dire que oui, il y a des camarades qui ont fait Sainte-Soline, oui, ils ont eu des grenades à leurs pieds, ou même pire, des camarades élus qui sont venus à la défense de personnes attaquées sous coup de grenade. Mais je veux dire, on est où là? Des gens qui défendent nos conditions d'existence, on cherche à les réprimer. C'est quand même assez dingue d'être en arrivé là. Aujourd'hui, ça peut très bien se passer. Toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe bien. Moi, je le vois au Conseil régional des Pays de la Loire. La présidente, elle est pro-bassine, alors que même, on a la chance, en Pays de la Loire, d'avoir un GIEC spécifiquement fait par la région, pour la région, et dans lequel la préconisation, c'est non, pas de méga-bassine. Pas de méga-bassine qui viennent chercher l'eau dans les sous-sols pour les mettre à l'air libre, se faire évaporer, non, à l'accaparement de l'eau, non, à ces méga-structures. En fait, quand on est politique, notre boussole, ça doit être d'écouter les scientifiques et d'écouter le peuple. Aujourd'hui, moi, je suis là pour écouter le peuple. En tout cas, à la France Insoumise, on écoute les scientifiques avec attention.
Bonjour Geoffroy, tu es ceint d'une écharpe tricolore,
voilà.
Et tu portes double drapeau, celui de la France Insoumise et un drapeau tricolore, des mêmes couleurs que ton écharpe. Tu es donc un élu de la République.
Tout à fait, je suis élu de la plus petite commune de Charente, Saint-Sulpice-de-Ruffec. Donc la Charente, département au sud de la Vienne, qui est aussi en proie au problème des méga-bassines, puisqu'il y en a déjà plusieurs qui ont été construites sur le bassin de l'Homme-Couture, et de très nombreuses en projet, retoqué une première fois par le tribunal administratif, mais avec des recours. Donc c'est un sujet brûlant dans notre département aussi, pas seulement de Sèvres et en Vienne.
Parmi tes administrés, c'est clivant?
Moi, je suis vraiment dans une très très petite commune. Donc
vous êtes combien?
On est 45, plus petite commune de Charente. Donc on essaie d'avoir le moins de clivage possible. À 45, on essaie de ne pas se taper dessus quand même. Et on y arrive d'ailleurs. Mais évidemment, c'est un problème clivant parce que l'agriculture en Charente aussi est encore très prégnant dans la culture de la population, dans l'activité, dans l'influence sur les paysages. Et puis l'agriculture reste un secteur économique vital pour notre pays. Donc ça ne fait pas question. Mais après, qui dirige cette agriculture et qui en donne les orientations? En fait, c'est ça la grosse question clivante de notre époque. Et donc, c'est ça qu'il faut résoudre, et de préférence par la discussion, la médiation et surtout la démocratie.
Tu connais des exploitants agricoles qui sont membres de la FNSEA
la coordination? Oui, j'en connais certains. Je connais assez bien le président de la Chambre d'agriculture de Charente, M. Christian Dagneau, qui était aussi à la FNSEA. Voilà, donc quelqu'un avec qui j'ai des relations cordiales, même si on est à peu près d'accord sur rien à ce sujet-là. Lui est agriculteur, donc il peut m'opposer que je ne connais rien à son métier, ce qui est vrai. Mais ça n'empêche pas aux citoyens d'avoir un avis sur la gestion de l'eau, sur la direction que prend l'agriculture dans le monde qui vient, et une vraie position aussi sur quelles sont les causes du dérèglement climatique et quelles sont les solutions qui n'en sont pas. Les méga-bassines font particulièrement partie du problème plus que de la solution.
Ah, tu me dis que tu connais un gros exploitant agricole. Ces gens-là, ils sont pas idiots. Ils savent qu'ils, pour la plupart d'entre eux, qu'ils ont mis le doigt dans un piège aussi. Enfin, c'est pas forcément toujours un choix.
Tous les agriculteurs, y compris à la FNSEA, parce que j'aime bien discuter avec les gens différents de moi. Je trouve ça plus intéressant finalement qu'avec les gens où on est d'accord sur tout. Et donc, j'ai discuté aussi avec d'autres agriculteurs céréaliers, FNSEA, de droite, enfin tout ce qu'on veut, et qui, pas en public, mais en discussion amicale, disent oui, c'est vrai que les méga-bassines, c'est quand même pas... la panacée, c'est pas forcément quelque chose qui fonctionne bien, c'est pas forcément non plus une solution d'avenir. Et puis que ça engloutisse de l'argent public pour seulement quelques agriculteurs. Enfin, il y a des agriculteurs au sein de la FNSEA et au sein de ce système qui, eux aussi, ont des regards critiques, même si publiquement, c'est plus difficile pour eux de l'exprimer.
Même si la FNSEA a annoncé clairement que son but était de réduire le nombre d'exploitants et d'exploitations agricoles pour qu'il n'y en ait plus que quelques-unes, ferme-usine, quoi. Donc,
c'est la théorie capitaliste, hein, de vouloir tout fusionner pour faire de plus en plus gros. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas caricatural de savoir que les gros sont à la FNSEA et les petits à la Confédération Paysanne. C'est...
Mais il y a plein de petits à la FNSEA aussi.
Il y a des petits à la FNSEA aussi. Bon, bah, ceux-là, bon, faudra qu'on leur explique.
On les plaigne.
Bah, bon, après, voilà, chacun a son histoire. C'est pas... Je ne juge pas les gens pour eux-mêmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mouvements de fond. Monsieur Dagnaud, je ne jette pas la pierre. Il a sa vie, il a ses convictions. Voilà. Je le cite parce qu'il est président de la Chambre des cultures en Charente. Mais... Ce qui est important, en effet, il y a plein de petits agriculteurs aussi, et moi je suis aussi en lien évidemment avec des gens de la Confédération Paysanne, avec beaucoup d'agriculteurs en bio, qui souffrent énormément aujourd'hui, pas seulement parce que le bio est en chute libre en termes de vente, mais aussi que les subventions qui lui sont allouées baissent ou ne sont pas versées. Et donc clairement, il y a des choix politiques en sous-main qui sont en train de se faire, qui sont catastrophiques. Et donc on ne peut pas dire que la bio ne marche pas si on lui met tous ses bâtons dans les roues aussi. Donc, il y a clairement une bataille culturelle, peut-être encore plus qu'agricole ou agriculturelle. Il y a bien un clivage d'idées, un clivage de vision du futur. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'à la FNSEA, il y a encore une part non négligeable d'agriculteurs climato-sceptiques. Et donc ça pose de grosses questions quand ces gens-là nous parlent de bon sens. Voilà.
Tu as déjà fait des manifestations anti-bassines ?
Oui, j'étais à Sainte-Soline l'année dernière. D'accord. Et donc j'y étais déjà avec des drapeaux et mon écharpe parce que je voulais aussi montrer qu'on était quand même une très grosse majorité à Sainte-Soline de gens pacifistes et qui ont eu peur pour leur sécurité et leur santé. Et sur les 10 000 personnes au bas mot qui étaient là-bas il y a un an et demi, seulement 300 ou 400 personnes sont allées à la baston.
Je crois qu'on était 30 000. Hein.
Les gens de BNM disent 30 000, la police dit 7 000, moi je dis 10 000 parce que je veux faire le modeste. Le fait est que tout le monde a vu pour ceux qui étaient là que les Black Blocs, les casseurs, comme on veut les appeler, étaient quand même une minorité, qu'ils n'ont pas attaqué les premiers, qu'il y a eu beaucoup plus de blessés dans les manifestants que chez les gendarmes, et que la BRAVEM, elle aussi, a piétiné les cultures des agriculteurs et à jeter des bombes lacrymogènes dispersantes sur les élus Saint-Décharpe, notamment oui. Des députés.
Donc, voilà, c'est là que je voulais en venir aussi. Donc tu sais que l'écharpe tricolore n'est pas un gilet pare-balles, tu es au courant déjà.
J'en suis tout à fait au courant et bon, ils n'ont pas regardé dans quel sens était l'écharpe, c'est-à-dire que députés et maires ont été gazés de façon unilatérale. Oui. Il y avait beaucoup de députés verts, insoumis et communistes à cette manifestation. Et
un sénateur aussi, ELV,
ils ont été gazés comme les autres, et ce qui est quand même proprement insupportable. Sachant que nous, les élus, on était quand même au moins 200 ou 300 mètres derrière la ligne de front, si on peut l'appeler comme ça. Donc il était bien clair qu'on n'allait pas aller à l'affrontement et qu'on était là en témoin, en spectateur.
200 ou 300 mètres de la ligne de front, ça veut dire pas si loin que ça, des 15 quads avec les voltigeurs des champs.
Juste à côté des quads qui nous ont pris à revers, qui nous ont balancés. Donc voilà. Donc moi, j'ai ce souvenir-là traumatique, comme beaucoup, enfin pour tous ceux qui l'ont vécu, doivent s'en souvenir. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, et cette semaine en général, d'avoir une ambiance plus festive me semble peut-être aussi un geste d'apaisement. Ça ne veut pas dire qu'on va lutter mollement, mais qu'on va lutter longuement.
Voilà. En tout cas, Sainte-Soline 2 ne t'a pas vacciné puisque tu es là aujourd'hui.
Ah, au contraire, non, au contraire, je pense qu'il ne faut pas baisser la garde. Quand on voit la situation politique aujourd'hui, on voit bien qu'il ne faut pas baisser la garde. Sur la montée du RN, il ne faut pas baisser la garde. Et sur la réponse qu'on doit apporter au changement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, ce n'est pas une réponse d'artificialisation des sols encore plus sauvage qu'avant. Il faut vraiment un changement de paradigme, mais ça, j'ai l'impression que ce n'est pas encore dans la tête de la majorité des Français et encore moins de ses dirigeants.
Après le pique-nique, on a même pu faire une micro-sieste dans l'herbe, mais il est temps de partir en balade, on ne sait toujours pas où. Le soleil tape, il fait très chaud, une trentaine de degrés, et des mégaphones nous rappellent de nous hydrater correctement.
On va se rendre en cortège, c'est maintenant l'heure du brief de la légale.
Bonjour. C'est quoi le nom de votre avocat si vous partez en garde à vue? Si vous ne savez pas répondre à cette question, je vous conseille d'aller voir les personnes qui ont un brassard jaune qui ont plein d'étiquettes avec les noms des avocats marqués dessus. Il vous suffit d'en retenir un seul, son nom de famille, sa ville, c'est-à-dire son barreau. Je vais les dire maintenant. Maître Chaloux, barreau de Rouen. Répétez après moi, Maître Chaloux, barreau.
Pour les documents que les flics vous donneraient, vous pouvez les relire, vous n'êtes pas obligé de les signer. Vous verrez ça avec l'avocat, mais on vous conseille vivement de refuser la comparution immédiate pour avoir le temps de préparer un vrai procès. Refusez aussi tout type d'alternative aux poursuites. Des fois, les procureurs, ils trichent, ils ne veulent pas vous emmener devant un juge. Ils vont vous proposer des reconnaissances préalables de culpabilité. Refusez-les constamment, c'est de la triche. C'est une façon pour le procureur de se débarrasser de vous en vous rendant coupable sans même passer devant un juge. Dernier point. C'est bien vous mettre d'accord maintenant avec vos amis, d'avoir un point pour vous retrouver à la fin de la manif, probablement au village de l'eau. Mettez-vous d'accord pour un horaire un peu tard, un point de rendez-vous, par exemple le poteau rose, et c'est un endroit où vous pourrez vous retrouver pour éviter de croire que tous vos potes sont partis en garde à vue alors qu'en fait ils vous cherchent eux aussi en ce moment même. Si néanmoins vous avez des personnes dont vous pensez vraiment qu'elles sont parties en garde à vue, soit vous pouvez contacter le numéro de la légale team, soit vous pouvez aller voir aussi à l'accueil de la base soins au village, qui vous sera indiqué, vous le demanderez, et là-bas vous pourrez aussi faire enregistrer les personnes perdues. N'hésitez pas, s'il y a des personnes étrangères, je vous invite à venir à côté de moi pour qu'on fasse un brief spécifique. Et n'hésitez pas aussi à reporter, dès que vous voyez des interpellations, à rapporter ça aux personnes qui ont des brassards jaunes. Voilà, merci. Allez, bonne manif.
Alors, répète l'information, la marche qu'on va faire, c'est une boucle qui revient ici. Donc on ne prend pas les voitures, on revient ici à la fin.
Les hélicos pour les hôpitaux.
Allez, on commence à se ranger vers l'entrée du site.
Tu as écouté les consignes de la Legal Team?
Oui, en cas d'arrestation, on a 4 heures pour une vérification d'identité. La seule chose qu'on ne puisse vraiment pas refuser, c'est montrer ses papiers. Après, on peut toujours refuser prise d'empreinte, prise d'ADN, photographie, etc. Mais ce sont des délits. De même que refuser de donner le code de son téléphone portable. Et sinon, votre meilleur ami est de dire que vous n'avez rien à déclarer.
Par des fanfares qui s'époumonnent, le joyeux cortège quitte donc Migné-Auxances et s'étire sur une départementale de campagne, sous le Cagnard. Sur la route, les habitants d'un pavillon proposent aux manifestants et manifestantes de les ravitailler en eau, d'accéder à des robinets et de remplir leurs gourdes.
Merci. Il y a quelqu'un qui nous amène de l'eau qui se fait applaudir, un riverain.
Ouais, c'est chouette.
C'est très chouette.
En fait, je boirais bien un verre d'eau.
Mais ça, c'est la gourde.
On peut vous donner une gourde?
Oui, oui. Salite, oui. Tu voulais la
remplir? Ah, ou directement...
Est-ce que tu veux me donner une gorgée?
Ah, vas-y, s'il te plaît.
Les méga machines, les pères d'usine de cette société-là, on n'en veut pas.
Les méga machines, les pères d'usine de cette société-là, on n'en veut pas.
Thank you.
geste silence a été demandé sur le cortège. On fait un triangle avec les deux mains au-dessus de sa tête, ça veut dire silence. Et une fumée noire s'élève derrière ce champ de blé là. Il y en a un qui a été fauché, un champ de blé, il y a les foins à terre. L'autre champ de blé n'a pas été fauché et derrière ce champ de blé, il y a un rideau d'arbres. Et derrière ce rideau d'arbres, des panaches de fumée noire qui s'élèvent légèrement vers l'azur. On ne sait pas ce qui est en train de brûler. À nouveau le signe du silence.
Demi-tour !
Ah, instruction est donnée de faire demi-tour. Et on voit là-bas la salamandre qu'on a interviewée tout à l'heure qui effectivement rebrousse chemin.
Demi-tour !
Et donc nous rebroussons chemin sans avoir d'explication vraiment sur l'origine maintenant de ce feu qui a l'air de se propager au champ. Il y avait trois panaches de fumée tout à l'heure et là oui le feu se propage. Il y a des champs de blé très secs hein, et des foins très secs sous cette grosse température. Donc il suffit peut-être juste d'un mégot pour foutre le feu à un champ. Après avoir rebroussé chemin sur 50-100 mètres, nouvelle direction à travers champ sur ce petit chemin de terre. Donc l'objectif qu'on ne connaît pas encore est inchangé, c'est juste qu'on prend un autre chemin pour y aller. Donc là, on a quitté le chemin de terre pour passer à travers ce champ qui a été récemment fauché, donc il y a encore des foins au sol. Il fait très très chaud.
Ce que vous entendez là, ce sont des bruits de pas sur le tapis de paille ultra sèche qui jonche le sol du champ.
Ah, c'est très impressionnant. On voit des milliers et des milliers de personnes rassemblées dans un champ en contrebas. Je vous assure que c'est vraiment impressionnant.
Liberté, liberté, chérie, je dirai tu es à moi, ô père d'allégresse, où nous pourrons sans cesse aimer, aimer.
Il y a du feu, le feu, il y a du vent. Tracez vers le champ de tournesol et restez bien de ce côté-là, pas du côté de l'herbe sèche.
Okay.
Le vent est défavorable, faites gaffe aux fumées. Le feu vient des lacrymos de la police.
Et ben voilà, une explication qui vient d'être donnée par un des organisateurs. Ce qui a mis le feu à ces herbes sèches, ce foin sec, serait une lacrymo de la police.
Reste ensemble.
Avancez !
On avance doucement, sûrement. On ne stagne pas, les gens de derrière doivent
arrière, on laisse pas les derniers dans la panique, on avance, on presse le pas tranquille, on avance tranquille, on est encore tous et tous ensemble, sors de là tranquillement.
Le cortège arrive en lisière de rangs de vignes. La vision est dantesque. Une barrière de feu avance vers les milliers de manifestants qui restent calmes et qui, sans panique ni bousculade, vont tranquillement longer les vignes pour rejoindre à nouveau la départementale avec le feu au cul. Personne n'a été brûlé ni asphyxié par le feu, on pourrait parler de miracle, mais s'il n'y a eu ni mort ni blessé, si les gens sont restés calmes et soudés, c'est bien grâce à la rigueur des organisatrices de la manif qui s'achève avec un point d'information.
Si certaines personnes n'ont pas eu les informations, vous pouvez rester là, on va faire une réexplication des informations de la journée. À la base de cette journée, nous souhaitions cibler Saint-Sauvent parce qu'il y aurait un démarrage de chantier possible en septembre. Au vu du dispositif policier et de toutes les interdictions de manifester, on a essayé d'être inventif et inventive. Et du coup, on a proposé ici de venir cibler Sériance, la filiale semence de Terena. Terena qui est une méga coopérative, une multinationale de l'agro-industrie et qui est directement reliée au projet de bassine dans la Vienne. Et du coup, là, notre enjeu, notre idée aujourd'hui, c'était de venir poser un grand panneau, faire un geste tout à fait symbolique pour poser un acte de condamnation des accapareurs d'eau. C'était ça, le projet. En fait, s'ils ne nous laissent pas aller à la bassine, et ben on remonte la filière, on va jusqu'aux décideurs, les décideurs qui se planquent là dans leur usine qui est à quelques kilomètres d'ici. On voulait atteindre cette usine par une grande marche populaire. On a tenté déjà ce matin de se rassembler. On a été beaucoup empêchés, il y a eu la garde montée qui a été magnifiquement esquivée. Il y a eu des personnes qui ont été nassées, des personnes qui ont été embarquées. Voilà, ça fait qu'on a commencé cette journée aussi plus tard que prévu. Ensuite, on est arrivé comme ça dans cette marche populaire et la police a balancé des lacrymos qui ont mis le feu aux champs. Pour vous donner des informations, la police bloque toute la zone. Là, je pense qu'il y a des quads, enfin bon, tout est bloqué. Et en fait, une fois que là, il y avait le feu aux champs, on avait plusieurs options. On avait une option de traverser une voie ferrée gardée par tout un tas de gardes mobiles ou bien de faire un détour de, je sais pas, genre 3 heures de marche. Au vu des difficultés de ce matin et du temps que ça a pris et de pouvoir garder de l'énergie pour la journée de demain, on s'est dit que 3 heures de marche, c'était pas possible. Au vu de ce qu'ils nous ont balancé là, ils ont mis le feu à quelques mètres de nous, on s'est dit que c'était pas possible non plus de passer, de re-aller à la confrontation. Même si je sais qu'il y a certaines personnes qui auraient voulu venir aussi pour au moins un peu avancer, quoi, pas faire demi-tour. En réalité, on a quand même exercé notre droit de manifester aujourd'hui. On était plus de 6500 aujourd'hui, ce qui est vraiment pas rien, et bravo. Notre victoire, c'est celle d'avoir manifesté, d'avoir réussi à se rassembler, parce qu'on le voit depuis le début de la semaine quand même, pour tout vous dire, c'était un peu compliqué cette organisation. Au vu de tous les contrôles,
de toutes les interdictions, de toutes les pressions qui sont tombées, c'était compliqué d'essayer de décaler la journée, les actions. Voilà. Aussi, on sait que l'information, elle est très mal passée. En fait, cette année, on avait un dispositif assez pointu de diffusion sonore qui avait été mis en place. Vous voyez les enceintes là où les gens parlaient au toki. Il y en avait deux dans le cortège. À la base, on devait en avoir beaucoup plus, je pense au moins sept, qui permettaient vraiment de couvrir énormément de gens par petits cercles, ce qui permettait en plus d'être autour d'une enceinte et éventuellement de pouvoir échanger après. Mais là, on n'a pas pu avoir le matériel nécessaire parce qu'on n'a pas pu le sortir du camp. Il y a eu d'autres aventures, mais en gros, on n'a pas pu avoir le matériel nécessaire du fait de saisie ou de impossibilité de le sortir sous peine de saisie, quoi. Voilà, du coup, on en est vraiment désolé. On sait que c'est très compliqué. Mais on va continuer à remonter la filière demain en allant cibler le terminal agroalimentaire portuaire du port de la Palisse à La Rochelle. Parce que, en fait, c'est vraiment l'agro-industrie, là. Toutes les bassines, il faut savoir, en France, sont liées à l'agro-industrie qui vraiment spécule sur notre alimentation, sur le revenu des paysans. Et je le redis, notre adversaire, nos ennemis, ce ne sont pas les agriculteurs, mais ce sont bien l'agro-industrie et l'agro-business. Je voulais dire un dernier truc, c'est que une très très bonne nouvelle, c'est que le port est déjà bloqué. Rien que l'annonce de cette manifestation a bloqué une partie de l'activité du port. N'hésitez pas à diffuser ces informations que je viens de vous dire autour de vous parce qu'on sait qu'il y a énormément de gens qui ne l'ont pas eu et que ça n'a pas été... On avait bien une cible, on voulait bien aller à Sérians à la base par cette marche. On n'a pas fait juste une marche comme ça dans le cagnard et sous les hélicos pour rien. Et bravo, bravo de notre détermination, là on le voit. Voilà, bravo.
Merci. Merci Lorca. Merci.
Pendant que les chambres j'attends que les larmes viennent et quand la peine on dit que jamais rien ne m'atteint.
Et voilà les amis, c'est à nouveau avec un grand merci à Lorca que prend fin cette champêtre manif du 19 juillet 2024. Reportage à retrouver sur notre site polemixetlavoixoff.com. Avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio libre préférée, pour un reportage sur la manif du lendemain, samedi 20 juillet à La Rochelle. Ce n'est qu'un combat, continuons le début, nos bassaranes.
Pendant que les chambres, j'attends que...